une maison douce, une maison de bon aloi. Juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits. Assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi. Et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Raconter l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Retour sur les ondes de Canal Sud en 2021, en commençant par quelques chroniqueurs, une manière comme une autre d'espérer des jours meilleurs. Des jours meilleurs et pourtant un regard en arrière avec un texte de Georges André, écrit le 1er décembre 2020 dans son blog « Vivre debout ». Anne Sylvestre n'est plus et je l'ai tant aimée, écrit-il. Il nous parle d'Anne Sylvestre dont Canal Sud a si souvent diffusé les textes lumineux, poignants ou féroces, drôles et incisifs. Écoutons-le, écoutons-la encore et toujours. En chantant, elle m'enchantait. Anne Sylvestre s'est éteinte. Mais ses chansons brillent sur nos nuits et nos résistances. Je l'ai connue quai de Saône, à Lyon, avec Lazare et Cécile. Un choc. Elle me parlait à moi, à nous, cette chanson. Elle parlait de résistance et de refus de soumission. Plus tard, c'est dans le Jura, chez Janine, que je découvris. T'en souviens-tu, la scène ? Que oui, je m'en souviens. Et je l'écoute encore, à vibrer comme jadis, à chaque fois. Elle ne fut pas seulement l'égale des Brassens, Brel et Ferrat et d'autres, mais elle, c'était une autrice, compositrice, interprète, une femme qui parlait des femmes, de leur suggestion, de leurs désirs, de leurs combats, de leurs amours, de la vie vraie dans ces petits détails ou ces grands projets personnels. Et enfin des hommes sous un angle aigu. Chère Anne-Sylvestre, vous m'avez tant appris, tant parlé au cœur et aux tripes, avec une sensibilité à fleur de cœur et de hargne dont je me sens si proche. Et le temps a passé, la roue a tourné dans ma vie militante, professionnelle, familiale, puis je vous ai perdu de vue, ou à peu près. Puis je vous ai retrouvé, quand j'ai eu mes enfants, pour qu'ils découvrent ces géniales fabulettes, belles chansons pour enfants, belles pas seulement pour les sonorités de la mélodie ou du texte, mais pour le sens qui y vient et, au fond, qui éduque des riens de ce monde, pourtant si essentiel. J'ai eu la chance de vous entendre 3 fois en concert, la dernière au Casino de Paris en 2013. Vos chansons reflétaient l'âge qui s'avance avec une relative sérénité, relative seulement, avec le feu sous la cendre, le trou noir de la solitude et cet aveu, écrire pour ne pas mourir. Je pourrais le reprendre à mon compte, sinon pour ne pas devenir fou. Dans ce monde, dans ce pays, dont nous n'imaginions pas dans nos pires cauchemars qu'il s'enfonce dans la nuit, malgré toutes les luttes. La dernière fois que je vous ai vu, c'était au Café de la Danse à Paris, le 17 octobre 2016. Nous assistions au concert de Michel Bernard, une autre très grande de la chanson. Militante féministe ouverte à tous les combats, dont l'intégrale vient de paraître. Nous étions heureusement assis au 2e rang, avec pleine vue sur la scène. Vers la fin du concert, l'artiste a commencé une nouvelle chanson. Et une autre interprète s'est avancée pour un duo. Anne-Sylvestre. Le bonheur. Nous avons goûté chaque seconde, basculant d'un timbre de voix à un autre timbre de voix. Quelle merveilleuse idée, quelle rencontre. Ainsi parfois survient le bonheur pour quelques instants si intense qu'il reste gravé comme un moment d'extase, de plénitude, où tout est beauté, sens et plaisir, où simplement la vie est belle, seulement et totalement belle. Aujourd'hui même, ce matin, avant l'annonce de votre disparition, ma fille m'envoyait une de vos chansons à écouter. Les gens qui doutent, comme un message d'amour, malgré nos chemins séparés. Je vous ai tant aimé, tant écouté. Vous m'avez tant appris sur ces femmes, ces situations de femmes qui cherchent à se libérer d'une condition aliénante. Peut-être davantage que bien des discours. Vous m'avez montré combien se battre pour vivre malgré tout, pion cabossé, mais à peu près debout, est finalement la seule solution des jetés. Là, pour vivre plus libre, avec dignité, dépasser sa propre destinée, pour modestement participer au monde. À la fin du spectacle, j'ai vu que vous ne quittiez pas la coulisse. J'ai attendu que toutes et tous soient partis et je me suis avancée, un peu hésitant, peur d'être un intrus, pour vous remercier. Vous m'avez paru si lasse, si épuisée. À bientôt, Anne.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu, tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle, après Coromar avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Yvonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marivonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça me dit rien. Là, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marivonne est très mignonne, il me l'avait caché. Là, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marivonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marivonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marivonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marivonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira, tu es belle, après comme avant. Il descendra la poubelle en repartant. La, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira Bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marivonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser.
Et Arthur Porto, dans Mediapart, nous rappelle. La chanson « Les gens qui doutent » a souvent été reprise par d'autres chanteurs, dont Maurice Bénin. On se souvient, enfin ceux qui sont nés au siècle dernier, on se souvient de Maurice Bénin, l'artisan chanteur rebelle. Il a souvent été présent dans le mouvement sur le Larzac, les manifs contre la centrale de Malville en 77, des fêtes de l'UMA dans les années 80. Et je viens de recevoir un mot que Maurice Bénin a écrit et que je me permets de reproduire ici. Anne, ma sœur Anne, tu es partie. Sans que j'aie pu te dire combien était lumineuse ton empreinte dans la chanson française à texte, dont le temple restait trop bien gardé par nos pères fondateurs, Jacques, Léo, Georges, Jean et quelques autres. Ta signature était ô combien féminine et non pas féministe, trop réducteur aux militants. Tu as su colorer par tes nuances de femme sensible, fragile, mais jamais résignée, l'essence d'une chanson d'auteur de haut vol, portant loin l'exigence d'un verbe irradié de sens. Écrire pour ne pas mourir, disais-tu. Oui, mais aujourd'hui, qui va écrire à ta place? Espèce rare d'une sorcière comme les autres, honorant les petites gens qui doutent que nous sommes. Tu nous bousculais aussi, nous, les machistes ordinaires, avec tes suppliques de femme mère bafouée dans sa beauté originelle. Tu es partie. Gratitude pour ton passage terrestre à nos côtés. Et soudain, comme un vide immense en moi. Et c'est signé Maurice Bénin, ce mercredi 2 décembre 2020, à Dieppe. Texte qui est connu depuis longtemps, mais dont l'origine est peut-être incertaine. On l'attribue à Pablo Neruda, mais on parle aussi, comme son auteur, de Marta Medeiros, une poétesse brésilienne. Il meurt lentement. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas. Celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux, il meurt lentement. Celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comment un enfant fait? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comment enfance, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comment en enfance, elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comment en enfance,
et un petit crochet par contre-histoire, avec un texte, le texte d'une lettre, lettre de démission d'un policier, Alexandre Langlois. Lettre à son ministre. Alexandre Langlois, policier digne et en colère de voir une institution à la dérive. Monsieur le ministre, lorsque je me suis engagé dans la police nationale, j'avais à l'esprit deux maximes de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. Et d'autre part, que seule l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Or, aujourd'hui, je constate qu'il n'est plus question pour le peuple d'obéir aux lois auxquelles il a lui-même consenti, et que le rôle de sa police n'est plus de protéger ses libertés, mais plutôt de toutes les annihiler, comme le ferait le plus vil des oppresseurs. Qu'est devenue la police nationale depuis 2014, elle qui se devait d'être la garante des libertés? Ne mérite-t-elle pas mieux que d'appliquer à la lettre des lois de plus en plus liberticides et autoritaires? En pareille situation, peut-on encore parler d'une police républicaine? Ou ne s'agit-il plus que d'une milice au service de votre autoritarisme? Mon engagement dans la police nationale ne peut plus se maintenir dans un tel régime sans aucun espoir de réforme, tel que vos prises de position récentes le laissent présager. De surcroît, votre ministère est pourtant celui qui distribue le plus de sanctions disciplinaires contre ses personnels et se fait beaucoup moins strict contre les policiers qui tabassent, mutilent ou tuent des innocents, comme Madame Zineb Redouane, Monsieur Steve Canico ou Monsieur Cédric Chouviat, tandis que les policiers, qui au contraire dénoncent ces dérives et dysfonctionnements, se font durement réprimander au motif qu'ils ne respecteraient pas la loyauté envers leur hiérarchie ou porteraient atteinte au renom de la police nationale. Tel n'est pas le comportement que la population attend de ses responsables politiques. Suite à la mort de Malik Houssekine le 6 décembre 1986, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, non seulement présenta ses excuses en personne à la famille, mais de surcroît prit la décision de dissoudre les voltigeurs. Depuis le début de ce quinquennat, c'est l'inverse qui est pratiqué. On nie les faits, on ne présente jamais d'excuses. Et on recrée les voltigeurs que l'on rebaptise Brave M. Les policiers sont depuis lors au service d'un président de la République qui les utilise pour réprimer avec violence tout mouvement social contestataire, tel que les gilets jaunes, mais également les infirmières, les pompiers, les médecins, les avocats. Au lieu de leur permettre de manifester leurs revendications de manière encadrée et sécurisée. Depuis la crise Covid-19, les policiers sont désormais exclusivement affectés au contrôle social et non plus au respect du code pénal. Les décrets et arrêtés préfectoraux les plus incohérents et absurdes ont remplacé les lois autrefois votées par nos assemblées. Nous contrôlons des attestations de déplacement et veillons au bon respect des distanciations sociales pour lutter contre l'épidémie. Or, si tel était réellement le but de notre action, c'est le personnel hospitalier qui aurait dû avoir des renforts, et on parlerait plutôt de distanciation sanitaire. Au lieu de cela, on nous détourne de nos vraies missions, qui sont de poursuivre les délinquants et les criminels et d'assurer la paix et la sécurité de nos concitoyens. Le 26 novembre 2020, M. David Perrotin, journaliste à l'Oopsider, présentait la vidéo d'un homme littéralement passé à tabac par trois policiers, entré par effraction sur son lieu de travail et en dehors de toute commission rogatoire. Sur la vidéosurveillance des locaux, on peut notamment entendre les policiers le traiter de sale nègre avant de braquer une arme contre lui en présence d'autres personnes dont l'une serait mineure. Cet événement honteux, tout autant que les réactions du ministère qui s'en suivirent, a renforcé ma conviction de mettre fin à mes fonctions. Tout autant que les réactions habituelles de mes collègues, dont un délégué du syndicat Unité SGP Force Ouvrière, organisation que vous recevez régulièrement, a pu dire dans une émission de télévision que « Bamboula, c'est encore à peu près convenable ». sans subir la moindre sanction ou autre forme de poursuite de la part du ministère. La seule défense tenable, bien que fantaisiste, du préfet de police, M. Didier Lallemand, à propos de l'interpellation susmentionnée, a ainsi été de dire qu'il n'était pas au courant. Alors même qu'il y a eu un appel de renfort, une sortie d'armes et un tir de grenade dans un lieu clos. Mais qu'attendre d'un préfet de police qui a obtenu sa promotion de Bordeaux à Paris en couvrant déjà des exactions de policiers par des mensonges dans l'affaire Olivier Béziade et à qui vous renouvelez encore votre confiance, bien qu'il ne soit pas dans le même camp que la population ? Ou qu'il ordonne une évacuation brutale de la place de la République encore récemment. Votre tweet, hypocrite, a fini de sceller ma décision. Je me félicite que l'IGPN ait été saisi par la justice dès mardi. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. Hypocrite, lorsque l'on sait que par l'effet de la loi sécurité globale que vous défendez bec et ongle par la propagande et le mensonge, cette victime aurait fini en prison et ses tortionnaires médaillés ou encore primés. Oui, vous mentez, monsieur le ministre, lorsque vous prétextez vouloir protéger les policiers en prévoyant un an d'emprisonnement pour diffusion d'images de policiers identifiables, quand les textes existants sur le harcèlement et les menaces prévoient déjà des sanctions 2 à 5 fois plus importantes, mais qui ne sont dans les faits jamais appliquées. Appliquons ce qui existe plutôt que de brader la sécurité physique et mentale des policiers pour des éléments de communication. Appliquons ce qui existe plutôt que de brader la sécurité physique et mentale des policiers pour des éléments de communication. Quand des collègues CRS reçurent des menaces de mort à leur domicile par courrier, était-ce dû à la diffusion de leur image ? Non ! Mais à la publication par votre ministère de leur prénom, nom et affectation au journal officiel. Est-ce qu'une quelconque mesure a été prise depuis ? La réponse est encore une fois non. Vous osez dorénavant instrumentaliser le drame de l'assassinat de nos 2 collègues de Magnanville par un terroriste. Pourtant, ont-ils été assassinés chez eux ? Suite à la diffusion de leur image ? Une énième fois, non. Mais suite à l'absence de sécurisation des données des ressources humaines qui se baladaient sur une clé USB non sécurisée par le ministère de l'Intérieur et transmise à un syndicat de police. Des mesures ont-elles été prises depuis ? La réponse est encore une fois et toujours négative. Si vous aviez un tant soit peu de respect pour les femmes et les hommes qui portent l'uniforme, comme moi, vous démissionneriez. Dois-je encore vous rappeler que la première cause de mortalité des policiers en fonction est le suicide ? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quelques 150 vies sacrifiées. Était-ce à cause de la divulgation de leur image ? Je ne le crois pas, mais suppute plutôt un management délétère, des injonctions paradoxales, une politique du chiffre, la perte du sens de notre métier et de la fonction. Des mesures ont-elles été prises ? Pas vraiment. Mis à part 2 numéros verts et des barbecues conviviaux. Enfin, faut-il rappeler que le ministère de l'Intérieur ne respecte pas même les décisions de justice le condamnant ? Pour, en ce qui me concerne personnellement, le refus d'exécuter, malgré 4 demandes, le jugement du tribunal administratif de Versailles, numéro 150-53-55, le reconnaissant coupable de discrimination syndicale. Pire, la discrimination a depuis lors repris de plus belle et j'ai été arbitrairement désarmée, sans contrôle de médecine statutaire et mes notes de renseignement ne sont plus transmises. Cela sans justification. Depuis ma première demande de rupture en juillet 2020, mon dossier aurait dû être traité au plus tard en septembre. Mais même pour cela, le ministère ne s'estime pas contraint de respecter la loi et les délais, ce qui engendre encore un préjudice à mon encontre. À moins que ce ne soit dans l'objectif de me sanctionner, une nouvelle fois arbitrairement, et d'éviter ainsi de me payer les indemnités légales. Pour l'ensemble de ces raisons, je sollicite, monsieur le ministre, ma rupture conventionnelle dans les meilleurs délais. Je quitte un métier que j'aimais, car vous avez fini de dénaturer la noble mission pour laquelle je m'étais engagée. Je quitte la police nationale pour les mêmes raisons que j'y suis entrée. La défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes salutations. Républicaine. Alexandre Langlois, secrétaire général.
Wir werden erfragen, sagen die Künstler. Aber nein, sagen die Wurst. On va tous crever, disait l'artiste. Mais non, tire les saucisses. Je sais plus jouer. Disait l'enfant. Tiens, voilà 5 francs, dirent les parents. On veut faire l'amour, dirent les enfants. Chut, j'appelle Royer, dirent les braves gens. Je veux pas savoir tuer, dit le soldat. T'étonne pas des tons, dit le général. Je sais plus penser, dit l'ouvrier. Tiens, une augmentation, dit le patron. On va tous crever, disait l'artiste. Regarde la jolie queue du poireau vert. Ça suffit, viens manger ta soupe en boîte. Viens caresser la feuille qui se repose. Ne perds pas ton temps, dis la raison. Viens faire sauter les digues et te baigner. Va te laver les mains, dit la propreté. On va tous crever, disait l'artiste. J'aime pas les voitures, ça sent mauvais. N'arrête pas le progrès, dit la publicité. J'aimerais tellement connaître des choses vraies. Faut penser à s'amuser, dit la télé. Pourquoi vous acharnez sur ces enfants? On fait notre métier, dit le policier. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, tire les saucisses. Si tu veux pas crever, dit mon copain, viens en communauté, fais-nous plus. L'artiste.
Oh, mais oui, dire les
saucisses. Seulement c'est parti.
Et voici nos dernières informations. Nous apprenons de sources bien informées que la petite Sophie, qui avait été kidnappée par des individus reconnus comme des Nord-Africains, a été retrouvée au grand soupir de ses parents. La France respire. 4-2, c'est le score du match à la mi-temps opposant l'équipe de Marseille à l'équipe d'Angoulême. Bravo, l'OM. Une information tout à fait anodine, quelques Nord-Africains ont été retrouvés sur le caniveau, l'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée. Le porte-parole du gouvernement communique. Le SMIG augmenté de 0,0001% à compter du 1er avril 79. 2, 6, 12. Si vous avez joué ce tiercé dans l'ordre, vous gagnez 16 000 anciens francs et dans le désordre, 4 000 anciens francs. Et voici nos toutes dernières informations dans le cadre du développement industriel, humain, technique de la région Alsace-Lorraine, bassin Méditerranée, sud, sud-ouest, sud-Alpes, Bretagne, Normandie, Flandre. Le porte-parole du gouvernement annonce la construction de prochaines centrales thermonucléaires.
On va tous crever, disait l'artiste. Oh, mais non, dire les saucisses.
Et pour terminer avec un petit peu plus de chaleur humaine, par l'intermédiaire de Mediapart, qui organise tous les ans les vœux à la nation par un président ou une présidente d'un jour, voici Yasmina Ketal, infirmière en Seine-Saint-Denis, qui porte la voix des soignants et au-delà de toutes celles et de tous ceux qui sont en première ligne, ces premiers de corvée. Méprisé par les refrains présidentiels sur les premiers de cordée. Membre du collectif Interurgence et syndiqué à Sud Santé, Yasmina Ketal avait raconté en mai dernier le quotidien de l'épidémie dans un de ses points chauds, alors qu'elle était infirmière aux urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, 93. Puis en octobre, sur son blog, elle avait partagé sa lassitude. « Je n'ai pas envie de remettre des gens dans des sacs mortuaires, » écrivait-elle, « de faire du tri à l'arrache, du travail à l'arrache. » Traversée par une colère retenue, ses yeux sont empreints de gravité et de ténacité. « Ne pas se raconter d'histoires !» Et en même temps, faire face, tenir bon, résister, lutter. Voici donc le texte des vœux pour 2021 d'une présidente de la République d'un jour, Yasmina Ketal. Bonjour à toutes et à tous. Si je suis la présidente d'un jour sur Mediapart, c'est avec la lourde responsabilité d'essayer de représenter les premiers de corvée, celles et ceux dont certains ont découvert le caractère indispensable face à l'épidémie. Je parle des soignants, comme moi, infirmières en Seine-Saint-Denis, mais aussi tous les autres travailleuses et travailleurs de l'ombre, avec ou sans papier, qu'ils soient livreurs, éboueurs, transporteurs, caissières, femmes de ménage, aides à domicile, etc. Je dois avouer qu'il n'a pas été très simple d'écrire les vœux d'une année qu'on aimerait pouvoir en grande partie effacer de notre mémoire. Pas simple non plus, une nouvelle fois, de s'exprimer sur une situation qu'on a inlassablement rabâchée. Car oui, si ce virus est entré par effraction dans nos vies, il l'a malheureusement fait en validant le constat, porté pendant des mois par une mobilisation hospitalière sans précédent. Un mouvement dont le seul but était d'obtenir les moyens nécessaires pour vous soigner et qui redoutait la situation actuelle. Avoir fait face à autant d'aveuglement, d'entêtement et de mépris rend la situation plus cruelle encore. Si, année après année, chaque attaque contre l'hôpital a laissé des traces, le Covid, lui, a laissé derrière lui un cratère. Je pourrais vous faire une liste de toutes les choses immondes vues et vécues durant cette crise, mais aussi celles qui rythment notre quotidien depuis bien trop longtemps. Elle serait longue. Elle parlerait des morts, de peur, d'injustice, de fatigue et de larmes. Des situations où tout ne tient qu'à un fil, où l'on nous a même nié le droit d'avoir des limites. Mais ai-je réellement besoin d'en passer par là pour vous faire comprendre? Je sais que pour certains d'entre vous, le message s'est brouillé. Il y a eu un certain nombre d'experts, en rien, donnant un avis sur tout, mais aussi de la culpabilisation, de l'infantilisation, voire des insultes. Pourtant, qui parmi nous n'a pas été un jour déstabilisé par ce virus? D'autant plus lorsque la communication gouvernementale a été mensongère et désastreuse, et ses actions irresponsables et dangereuses. Ce soir, vous entendrez l'autre président user de tout un tas de superlatifs pour nous qualifier. Il dira probablement que c'est grâce à la mobilisation exceptionnelle des soignants que nous passons chaque cap. En un sens, c'est vrai, j'ai vu mes collègues se dépasser comme jamais. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cela provoquera de l'amertume, voire de la colère, car cela s'est fait sur notre dos, notre sueur, nos larmes, notre santé. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. D'autant plus si ce n'est pas pour en tirer des leçons et finir par voter ces 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires à réaliser en 2021. Alors pourquoi on accepte? Le problème, c'est qu'on n'accepte plus vraiment. Certaines d'entre nous, lassées de batailler dans le vide, finissent aussi par dire « on se lève et on se casse ». Et en ce moment, trouver des infirmières expérimentées, c'est comme chercher les FFP2 en mars. Il n'y en a pas. Qui pourrait les en blâmer? Un système qui ne tient que par la culpabilité n'est pas viable éternellement. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Ce que je n'oublierai pas, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on y est mort plus qu'ailleurs et dans l'indifférence la plus totale. Justement parce qu'on y concentre les premiers de corvée, fragilisés par des maladies, des conditions de vie et un accès aux soins médiocres. Ces personnes qu'on a continué d'exposer au nom de la sauvegarde d'une économie dont nous ne sommes même pas les bénéficiaires. Je n'oublierai pas non plus que votre première réaction fut de trouver des moyens d'exprimer votre solidarité. Mais tout comme notre mouvement pour défendre l'hôpital, je suis désolée d'avoir à vous le dire, cela n'a pas suffi. D'ailleurs, une petite accalmie, elle, a suffi pour que l'autre président, comme tant d'autres avant lui, nous reparle d'organisation et non de manque de moyens. Si cette année s'achève avec une perspective de vaccin contre le Covid, où est celui contre les autres maux de nos sociétés qui nous rongent? Le racisme, les violences policières, la chasse aux réfugiés, la pauvreté, les dérives autoritaires. Le Covid ne doit pas être un prétexte à la restriction des libertés ou au reniement des promesses d'égalité. Au même titre que les autres enjeux climatiques, économiques ou sociétaux, la question de l'hôpital n'est pas indépendante de celle du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Nous sortons de cette année lassés et changés. Nous avons dû apprendre à vivre avec nos peurs et nos doutes. Mais cette année nous a aussi montré que face au danger, la solidarité est vitale. Que face à l'injustice et aux mensonges, nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. Je devais ici vous délivrer un message d'espoir, mais je me garderai bien de tout pronostic pour l'année 2021, car c'est à nous de l'écrire. Si elle laisse entrevoir des aspects de plus en plus sombres, elle porte aussi en elle la nécessaire promesse d'un autre monde. Alors je nous souhaite de vivre ces moments où l'on relève la tête et où l'on peut sentir la force de l'énergie collective. Ce soir, mes collègues s'occupent des moins chanceux d'entre nous. Je nous souhaite de réussir à nous protéger les uns les autres, parce que nos vies en valent la peine. Surtout, je nous souhaite de connaître joie, rire, amour et santé.
Le vent pour lèche les coteaux de mon cerveau nomade. Je virevolte dans l'espace et tombe sur toi. Tu m'attendais un petit peu, tu avais déjà mis du mimosa dans tes cheveux et du sable dans ton lit. Tu es nu par au-dessus, habillé par en dessous. Je me fraye un chemin à lumière, écueil des seins. La pointe se métamorphose et devient un peu dure. J'ai le regard qui se croche, tu m'appelles à la morsure. Quand tous les serpents naufragés se seront battus pour des pommes, nous deviendrons des insurgés. Quand tous les saints invétérés, les curés, les scouts au jasmin, connaîtront les joies du péché et le béniront quand il vient. En attendant, petite aurore, nous sommes les diables à éviter. Nous nous pénétrons au grand jour, à la bave de ces crapauds. J'explore ton cul. Tu te dresses, tu te redresses. Je t'ai enfin répondu. Quand tous les serpents naufragés se seront battus pour des pommes, nous deviendrons des insurgés. Quand tous les saints invétérés, les curés, les scouts au jasmin, connaîtront les joies du péché et le béniront quand il vient. En attendant, petite aurore, nous sommes les diables à éviter. Nous nous pénétrons au grand jour, à la bave de ces crapauds qui meuglent leur miséricorde en séparant l'âme et le corps et en s'inventant des criages suintes, un sexe vénal. La misère est bien de ce monde quand on regarde vivre les gens apeurés dans leur jouissance et se masturbant en bavant sur ces affiches. Ses couleurs, ses lendemains de grisaille, il palpite sous les rondeurs de ses culs tannés par cardin, de ses sexes plus inanimes. Quand tous les serpents naufragés se seront battus pour des pommes, nous deviendrons des insurgés. Quand tous les saints invétérés, les psychos, les analytiques, connaîtront les joies du péché, s'échapperont des crucifix, nous deviendrons. En attendant, petite aurore, Nous sommes les anormaux détraqués, les psychosociaux obsédés. Nous ne pénétrons au grand jour et ces marques de soutien-gorge à La Rochelle. Le samedi soir, je me souviens du porte-à-porte et des filles tannées par l'espoir de ces enfants. Thank you.